Bonsoir, comment allez-vous? Après-demain soir, nous fêterons notre passage dans l'an 9. Brigitte Patient animait sur cette antenne une jolie émission matinale qui s'appelait « Un jour tout neuf ». Quel beau titre! Mardi à minuit, nous entrerons dans un an tout neuf, le 20e de la décennie. 20 ans, mais c'est si jeune! Pourtant, à 20 ans, certains travaillent depuis longtemps et d'autres se demandent s'ils travailleront un jour. Certains ont des enfants et d'autres se demandent s'ils en auront un jour. À 20 ans, on croit qu'une promesse tenue est un pléonasme. Une déception est un gouffre, une différence, une solitude. À 20 ans, on adore ou on déteste, on s'échauffe, court, tombe et repart. À 20 ans, on est beau et on ne le sait pas. À 20 ans, on a des certitudes et pourtant on doute de tout, surtout de soi. À 20 ans, on commence à voir sa famille sous un autre angle. À 20 ans, on ne sait pas dire non, on a le jugement facile, la rancune tenace. À 20 ans, on tombe amoureux d'un sourire, de l'amour, d'une idée. À 20 ans, on peut tout, absolument tout faire et on le sait au fond. À 20 ans, on vieillira un jour, mais ça, on ne le sait pas.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir jusqu'à quel âge peut-on vivre. Merci.
Margot, 7 ans, jusqu'à quel âge peut-on vivre? C'est vraiment l'âge de raison, dis donc, 7 ans. Jean-François Toussaint, vous êtes professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes.
Alors la réponse à cette question est très souvent dépendante de nos croyances. Pour certains, la vie éternelle continue ailleurs, après la mort de notre enveloppe terrestre, après que notre corps a cessé de fonctionner. Ce qui n'est pas complètement faux, puisqu'une grande partie des éléments et des atomes qui nous composent sera recyclée et réutilisé par d'autres organismes. Pour d'autres, au contraire, c'est bien le corps et toutes ses fonctions complexes qui, lorsqu'il cesse de fonctionner, définit la borne ultime. Alors, pour t'expliquer cela, je m'en tiendrai à la seule constatation possible, celle de ce que nous mesurons avec nos outils d'observation, c'est-à-dire la durée de vie des organismes humains, en distinguant la durée maximale connue et puis la durée moyenne pour une population. Et puis aussi les incertitudes, par exemple sur la date de naissance des personnes très âgées. On n'a pas toujours eu des systèmes d'archivage parfaitement fiables. Mais cette incertitude diminue avec le temps. Donc on peut dire qu'on s'approche de plus en plus de la réalité. Et ce qu'on constate est clair, la durée de vie maximale n'augmente plus.
Ah bon? On ne vivra pas plus vieux que ce qu'on vit maintenant?
Probablement pas plus que Jeanne Calment, et en tout cas certainement pas pour la moyenne de la population.
D'accord.
La très probable détentrice du maximum authentifié est effectivement Jeanne Calment, qui est décédée en 1997 à 122 ans, 5 mois et 2 semaines. Mais depuis, ce maximum, pour les doyens de l'humanité, se situe 5 ans en dessous, entre 115 et 118 ans. Et de la même façon, la moyenne, qu'on appelle en général l'espérance de vie, n'augmente presque plus dans les pays qui ont atteint les plus hauts niveaux de développement, comme le Japon ou la France. Alors, la conclusion qu'on peut en tirer devient de plus en plus évidente. La durée de vie maximale humaine, comme la taille ou les records du monde, par exemple, ne progresse plus depuis une génération, c'est-à-dire depuis à peu près 20 ans. Et la moyenne arrive doucement à son apogée. Ce sera moins de 90 ans et seulement dans les pays développés.
C'est vrai que nos enfants sont plus grands que nous. Enfin, vous, c'est un peu particulier, mais donc les enfants de nos enfants ne seront pas forcément plus grands.
Non, et on voit que la taille a arrêté de progresser dans un grand nombre de pays, y compris pour les plus avancés. Et on voit que certains pays ont déjà commencé à régresser, en particulier l'Égypte, les pays des pourtours des grands lacs africains aussi, qui bien la question de la distribution de l'alimentation pour chaque personne présente à l'intérieur de la communauté. Et c'est une question de distribution de l'énergie qui est posée, parce que c'est celle-là qui détermine à la fois la taille et la durée de vie. Tous les autres pays peuvent encore espérer progresser, à condition de réunir toutes les conditions du développement économique, du développement alimentaire et du développement sanitaire dont nous avons bénéficié. Alors s'agit-il du maximum absolu? C'est pas sûr, mais ça reste très probable, parce que nous avons, comme toute espèce vivante, des limites propres. Et l'homme ne pourra pas vivre aussi longtemps que le séquoia, 5000 ans, ni en avoir la taille, près de 120 mètres. Et ces limites, elles sont communes à l'intérieur d'une classe. Si l'on prend la classe des mammifères, par exemple, on sait que la durée de vie est inversement proportionnelle, par exemple, à la fréquence cardiaque. La souris qui vit 2 ans, son cœur bat à 600 battements par minute. La baleine qui vit 80 ans, son cœur bat à 15 battements par minute.
Et l'homme, Jean-François
Toussaint, on est à 60 par minute au repos, ce qui veut dire que notre espérance de vie moyenne devrait être autour de 30 ans. Eh bien, si l'on regarde ce qui s'est passé depuis 300 000 ans, nouvelle découverte de Jean-Jacques Hublin, qui montre que l'homme et Homo sapiens, depuis cette période, s'est succédé à raison de 100 milliards d'individus, depuis cette époque, eh bien la moyenne est bien autour de 30 ans. Ce n'est que depuis 2 siècles, depuis 10 générations, que l'espérance de vie a augmenté pendant que nous repoussions les contraintes environnementales.
Autour de 30 ans, eh bien moi qui disais que 20 ans c'était très jeune, si on doit mourir à 30 ans, c'est pas si jeune finalement. Jean-François Toussaint est un grand homme dans tous les sens du terme. Quand il rentre dans un studio, on se sent tout petit, il doit mesurer 2 mètres. Il est médecin et professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes et également membre du Haut Conseil de la Santé publique. Ah, que je n'aimerais pas être réincarné en huître à cette époque-là, en fin d'année.
Oui, bonjour, c'est Nathalie. Voilà, je me posais une question sur les huîtres. Je voulais savoir si les huîtres plates et les huîtres creuses pouvaient se reproduire. Et si elles se reproduisent, est-ce qu'elles font une autre race d'huîtres, genre une race demi-plate ? Voilà, ben je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Alors, nous sommes souples au petit bateau. Nous prenons une adulte quand elle se présente. Que pensez-vous, Jean Proulx, directeur du centre de recherche Ifremer de la Tremblade en Charente ? Donc, vous êtes spécialisé dans les coquillages. Que pensez-vous de la question de Nathalie ?
Eh bien, c'est une très très bonne question, Nathalie. Tu pourrais presque même être chercheur parce que les chercheurs se posent cette question-là.
Ah oui.
A priori, entre 2 espèces différentes, il n'y a pas de reproduction. C'est très très rare. Donc, huître plate et huître creuse, je te rappelle quand même, l'huître plate, c'était l'huître qu'on trouvait en Europe depuis tout le temps, depuis au moins 10 000 ans.
C'est la belon.
C'est la belon, voilà. C'est l'huître qu'on trouvait partout en France et en Europe même. Hein, les Romains en mangeaient des quantités industrielles un peu partout. Ils connaissaient très très bien l'huître plate. Et puis, elle a eu des petits problèmes de maladie. Et donc, après, on a eu l'huître portugaise de 1867 à peu près à 1970. Pendant 100 ans, ça a été l'huître portugaise. Il y a toujours l'huître plate, mais il y avait l'huître portugaise. Puis l'huître portugaise a aussi eu des maladies. Et puis, maintenant, on a une huître qui est arrivée dans les années 1970, s'appelle l'huître japonaise. Alors, quand il y a des maladies sur les coquillages, ben, la tentation, c'est de prendre une huître qui est résistante, par exemple l'huître plate, qui a certaines maladies mais qui n'en a pas d'autres, et puis de la croiser avec une huître creuse qui a d'autres maladies puis qui n'a pas celle de l'huître plate, pour voir si le mélange des deux ne ferait pas des huîtres qui seraient totalement résistantes aux 2 maladies. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les croiser parce que ce sont 2 espèces différentes.
Elles veulent pas.
On les appelle huîtres, mais en fin de compte, ce sont non seulement 2 espèces différentes, mais 2 genres différents.
Ah, hein. Oui.
L'huître plate s'appelle Ostrea edulis, donc c'est le genre Ostrea. Alors que l'huître creuse s'appelait Crassostrea gigas il y a encore 2 ou 3 mois, et maintenant s'appelle Magallana gigas. Elle a changé de nom. Hein. Il y a des chercheurs qui lui ont donné un autre nom, donc maintenant il faudra s'habituer à l'appeler comme ça. Donc ce sont 2 genres différents. Hein. Mmh. Il y a d'autres genres d'huîtres. Hein. On connaît par exemple l'huître perlière qui donne les perles dans les pays tropicaux. C'est encore un autre genre, c'est le genre Pinctada.
Voilà, si vous voulez un petit récapitulatif, vous pouvez réécouter cette réponse de Jean Proulx sur franceinter.fr à la page des petits bateaux.
Je ne vais pas je sais pas danser, je sais pas m'oublier, je ne veux pas sortir.
Je ne sais pas danser, c'était Pomme.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants nous posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 14 ans et je voulais savoir quelle est la grue la plus haute du monde. Merci.
Bonsoir Marie, nous proposons ta question à Eric Etival qui est grutier et formateur au centre de formation Émile Picot à Malemort en Provence. Et vous avez créé Eric Etival, tu peux aller voir Marie, le site grutier.net. Alors elle vous demande quelle est la grue la plus haute du monde.
Alors actuellement, celle qui bat le record, disons en hauteur, c'est celle qui était montée à Dubaï, sur la tour qui s'appelle la Burj Khalifa, qui est à 800 mètres de hauteur.
Une grue de 800 mètres de hauteur ?
Il faut savoir qu'une grue est toujours au-dessus d'un bâtiment qu'elle va construire. Il faut savoir que là, c'est sûr que la grue n'arrive pas jusqu'au sol, hein, elle est posée sur le bâtiment. La grue en elle-même, du début du chantier jusqu'à la fin du chantier, aura la même quantité d'éléments du début jusqu'à la fin. Mais c'est la grue qui sera rehaussée au fur et à mesure en fonction de l'avancement du chantier. Elle suit au fur et à mesure...
Elle monte avec le bâtiment ?
Elle monte avec le bâtiment, oui. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a un chantier qui est en cours en Arabie Saoudite, où ils sont en train de battre le record justement de la tour la Burj Khalifa. Cette tour en Arabie Saoudite, qui s'appelle la Kingdom Tower.
Elle fait combien ?
1001 mètres. Elle sera finie dans les années 2022 ou 2023, je ne sais plus.
Comment vous allez la redescendre ?
Alors ça, c'est toute une technique aussi de démontage. Donc, soit ça se fait quand on a des gros moyens ou que les situations sont un peu particulières, on va utiliser soit un hélicoptère, soit on va utiliser un autre appareil de levage qu'on appelle une grue d'Eric, qui est une espèce de potence qui est montée sur le sommet du bâtiment et qui servira à démonter la grue à tour, pièce par pièce, pour ramener toutes les pièces au sol.
Et sinon, une grue qui n'est pas à Dubaï, mais sur le territoire français, elles ont entre quelle et quelle hauteur à
peu près ? Alors sur le territoire français, les hauteurs se situent aux alentours de 200 mètres.
Toutes ces grues sont faites dans la même matière, dans le même matériau ?
Oui, tout ça, c'est de la charpente, c'est de la charpente métallique. Un peu comme la tour Eiffel, voilà, c'est de la charpente métallique. Ce sont des éléments qui sont soudés entre eux pour construire le mât, la flèche, etc. Et puis tout ça est assemblé à l'aide d'axes ou de boulons.
Voilà. Le mât et la flèche, c'est la même chose ?
Le mât, c'est la partie verticale et la flèche, c'est la partie horizontale.
Merci Eric Etival pour ces informations sur un monde que nous ne connaissons pas tellement. Vous savez qu'un des gros soucis du chantier de Notre-Dame de Paris est le démontage de l'échafaudage qui aurait dû servir à restaurer la flèche. L'assemblage métallique s'est soudé avec la chaleur. Et c'est grâce à une grue de 94 mètres de haut pour laquelle on a dû construire des fondations spéciales que l'échafaudage pourra enfin être dégagé. Cette grue voyage de nuit, pas incognito, mais en pièces détachées. Et en principe, il y en aura pour 6 mois. Et ben, c'est pas moi qui irai là-haut.
Bonjour, c'est Pierrot. J'ai 24 ans et je me demande s'il y aura toujours la possibilité de créer des mélodies, de la musique à chaque fois différente. Parce qu'on n'a pas 36 000 notes dans nos répertoires. Donc c'était pour savoir si c'était quelque chose qui était imaginable. Toujours pouvoir découvrir et créer des nouvelles mélodies. Merci.
Bonsoir Pierrot, ça c'est vraiment une question de scientifique. Emmanuel Bigan, vous êtes enseignant, chercheur en musique, cognition, cerveau à l'université de Bourgogne et vous avez écrit « Les bienfaits de la musique sur le cerveau » édité chez Belin. C'est terrible cette question.
Alors ça c'est une bonne question, un petit peu musicologique presque. Le cerveau humain a cette caractéristique d'être génial pour combiner des informations. C'est cet aspect combinatoire qui fait notre intelligence, l'intelligence humaine. En langage, c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'unités de phonèmes, mais on peut créer une infinité de phrases. Et c'est cette capacité de combiner ces phonèmes d'une façon infinie qui fait qu'on peut toujours dire des choses nouvelles. Et la question, on pourrait la transposer dans le langage. Est-ce que finalement, on va pas un jour ou l'autre se mettre à répéter les phrases qu'on a déjà dites ? Et vous pouvez même vous la poser. Est-ce que vous êtes toujours en train de dire des phrases différentes dans votre vie personnelle ? Il y a des gens qui ont un peu des routines d'expression d'expression et qui a un peu des réflexes de langage. Mais la plupart du temps, on parle et on dit des choses différentes. La phrase que je prononce aujourd'hui, je ne l'ai jamais prononcée, même si j'étais souvent amené à parler des questions de musique et de cerveau.
Et vous ne la direz pas demain.
Et je ne la dirai pas demain. Donc c'est un peu la même chose en musique. Sauf qu'en musique, si dans notre culture musicale, vous avez 12 notes, c'est très peu. Hein, vous prenez les notes du piano, les notes blanches plus les notes noires, ben ça vous fait 12. Alors ensuite, elles apparaissent à des octaves différentes, mais c'est les mêmes classes de notes. Et on a pu construire énormément de musique, et ça va pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce que la musique n'est pas faite que de notes de hauteurs différentes. Vous pouvez prendre deux notes, et déjà, juste en changeant d'autres paramètres, le timbre, le rythme, l'intensité, le vibrato, vous pouvez faire dire à ces notes des choses très très différentes. Donc c'est les mêmes intervalles, mais déjà, elles peuvent avoir un sens différent. Alors si vous multipliez ça par 12 et que vous rajoutez toutes les autres sources de variations, vous avez une infinité de possibilités. Autrement dit, si on formalise un tout petit peu plus mathématiquement, on est dans un espace multidimensionnel. Il y a la hauteur, 12 notes, mais il y a les rythmes, une infinité de rythmes. Il y a les modulations de timbre, les modulations d'intensité. Et déjà, rien qu'avec ces quatre dimensions, vous pouvez encore créer beaucoup, beaucoup de musique nouvelle.
Ouf!
On n'est pas arrivé au bout. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on peut même pas imaginer la musique qu'on va faire dans les années et les dizaines d'années à venir. Pouvez-vous imaginer la musique de 2060? Ben non. Il faudra vivre jusque-là pour savoir.
Après le futur, retournons dans le passé. À propos de mélodies qui en inspirent une autre, je vous propose une manœuvre amusante. Écoutez le fameux canon de Pachelbel. Pachelbel est un compositeur allemand du XVIIe siècle. Et puis, écoutez bien cette mélodie, ça y est, vous l'avez entre les oreilles. Oui, vous avez reconnu Rain and Tears des Aphrodite Child. Vous me direz ce que ça vous inspire. Formés dans le studio. Le premier, Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur, trouve que les Aphrodite Child ont vieilli. Le deuxième, Serge Viguier à la console, trouve que les Aphrodite Child n'ont pas pris une ride. Moi, je suis du côté de Serge Viguier. Marjorie Devoucoux, comme d'habitude, ne se mouille pas. Peut-être que tout ça est une question de génération. Allez, tournons-nous vers la jeunesse.
Bonjour, je m'appelle Armand, j'ai 6 ans et je veux savoir qui a construit les Legos. Au revoir.
Bonsoir Armand. Alors en réalité, beaucoup de personnes participent à la construction des Legos. Il y a en résumé, on va dire 4 grandes étapes. Déjà, la recherche des idées et le design. Ensuite, il faut sélectionner ces idées. Puis, les tester, notamment au niveau de la qualité et de la sécurité. Et enfin, les produire en usine. Alors d'abord, pour trouver des idées. Les idées sont confiées aux designers. Il y a en fait une équipe de plus de 200 designers qui travaillent au Danemark, à Billund. C'est une petite ville au centre du Danemark. Et ces designers recherchent un tas d'idées différentes en s'inspirant des tendances actuelles, des échanges et des moments de jeu qu'ils peuvent avoir avec des enfants, mais aussi de leur propre expérience.
Donc en fait, le designer, Émilie Carl, il dessine, j'allais dire, l'objet, que ce soit un avion ou une maison, fini.
Exactement. Déjà, il recherche une idée. Ensuite, il dessine son idée et il le construit. Il a un catalogue en fait de briques, d'éléments Lego existants, et il construit vraiment son prototype. Et ensuite, il va tester cette idée-là pour sélectionner les meilleures idées. Donc les designers, plusieurs fois par an, vont rencontrer des enfants dans différents pays, les laissent jouer, critiquer, proposer des améliorations sur leur construction et leur prototype. Et à la fin, seuls les modèles qui ont recueilli le vote des enfants, on va dire, passent à l'étape suivante.
Donc ça nous fait deux étapes, Émilie.
Ça nous fait deux étapes. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les bonnes idées, on passe à une phase qui est peut-être la moins rigolote, mais en tout cas primordiale, qui est la phase de test qualité et sécurité. Par exemple, pour les plus petits enfants, les enfants qui ont moins de 3 ans, la taille des éléments et des briques...
Je vous vois venir. Ils doivent pas passer par le tube digestif.
Exactement. Donc, c'est des briques qui sont beaucoup plus grosses et il doit être vérifié que toutes les briques qui constituent ce modèle aient la taille minimale pour cet âge-là.
D'accord. Donc ça, c'est la troisième étape.
Troisième étape. Et donc, nous passons à la quatrième étape où l'idée, le modèle, passe en production en usine. Alors, pour cela, il y a en fait un moule pour chacun des éléments qui constituent le modèle. Et quand on sait qu'il y a aujourd'hui plus de 3500 éléments Lego existants, ça laisse imaginer le nombre de moules actifs dans les usines.
Et alors, on coule, qu'est-ce qu'on fait dans le moule? Qu'est-ce qu'on lui met dans le moule?
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On y injecte du plastique. Ouais. Qui est en fait liquéfié parce qu'il est chauffé à une température très élevée, ouais. Entre 230 et 310 degrés, et on l'injecte avec une pression très forte dans les moules. À titre d'illustration, la pression est environ 1000 fois plus importante que la pression d'un pneu de voiture. Et ensuite, il est refroidi pour créer la forme recherchée, avec une précision qui est assez extraordinaire, puisque les moules ont une précision de 0,004 mm. 20 fois plus petit que le diamètre moyen d'un cheveu, ce qui permet une combinaison parfaite des briques les unes avec les autres.
C'est toujours incroyable d'entendre parler de quelque chose de plus petit que du diamètre d'un cheveu, même d'un gros cheveu. Les derniers petits bateaux de notre année 2019 sont terminés, sans pour autant être tout à fait terminés, puisque vous pouvez venir sur notre site ou bien nous podcaster, ou bien réécouter cette émission sur franceinter.fr. Avant de vous laisser avec Denis Chessou, je vous donne rendez-vous, et bien l'année prochaine!